Et maintenant, un bon boîte cast.
Et maintenant, un bon boîte cast.
Bonjour à toutes et tous. Nous sommes dans un tournant historique et pécunier de Repop Production. Voilà, nous avons donc Cédric Comeau qui est en train de manipuler ses pièces d'or. Et nous avons Thomas Provost qui attend. Bonjour Thomas.
Bonjour Tibi.
Bonjour Cédric.
Bonjour Tibi, ça va bien?
Oui. Bon, alors, on est sur un jeu qui n'est même pas encore sorti, qui est encore vraiment à l'état de prototype, mais on en parle déjà pour Essen 2010, donc là on est en février, et ça s'appelle Seven Wonders.
Seven Wonders.
On a déjà pensé à tout.
Mais oui.
Donc c'est un jeu sur les sept merveilles du monde qui a été créé par Antoine Boza et qui est un peu une révolution, on va dire. On en parle déjà comme étant quelque chose à suivre. Mais pourquoi donc?
Parce que c'est un jeu de cartes sur les merveilles. Le système de jeu fait qu'on peut jouer de 3 à 7 joueurs. Et ça, c'est assez révolutionnaire dans la mesure où des jeux de stratégie légers qui durent une demi-heure, qui peuvent monter jusque 7 joueurs, c'est très très rare. C'est-à-dire que le jeu peut être joué à tout niveau d'expertise ludique. Des enfants de 8 ans qui ne connaissent pas grand-chose, comme des experts, vont y trouver leur plaisir. Et en introduction ou en fin de soirée ludique, une demi-heure pour jouer à 7, c'est vraiment un format qui est très très peu... trouvable à l'heure actuelle.
D'accord. Et donc, le pitch, c'est quoi, le Seven Wonders?
Alors, le pitch, c'est que l'on va développer l'une des sept civilisations autour du bassin méditerranéen. Une civilisation, on va dire plutôt une civilisation liée à une merveille, donc entre les jardins de Babylone, les grandes pyramides de Gizeh, la grande statue de Zeus, ou encore la célèbre mausolée d'Halicarnassus que tout le monde a oublié. Mmh. Et on va développer sa civilisation au cours de 3 âges, en pouvant poser des cartes. Donc, Seven Wonders, c'est une civilisation que l'on pourrait jouer jusque 7 joueurs, mais surtout c'est une civilisation qu'on peut jouer en une demi-heure. Mmh. Et ça, c'est un peu un vieux rêve de gamer, de pouvoir se faire plaisir en faisant un jeu de développement, où tel bâtiment me permet de construire telle chose, telle technologie me permet de gagner plus d'argent, etc., etc. J'ai des échanges commerciaux avec mes voisins, et tout ça se joue, allez, en une demi-heure. Et ça, c'est vraiment le côté révolutionnaire.
Alors, tout à fait. On joue tous en même temps, parce que le mécanisme principal qui est mis en place, c'est le draft. Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est le draft?
Ben oui, le principe du draft, donc, c'est d'avoir un paquet de cartes, de choisir une carte de ce paquet, et de savoir intimement que les cartes que l'on ne prend pas iront chez notre voisin.
Moi, je croyais que le draft, c'était un liquide vaisselle.
Oui, ça, c'est pour l'extension.
Exactement. Et donc, le principe, évidemment, contrairement aux différents jeux de draft, c'est difficile de rester sérieux avec ces imbéciles, excusez-moi, c'est qu'en général, un draft permet de constituer un deck qui va être utilisé pour la partie. Mmh. Ici, le draft se fait en temps réel, c'est-à-dire que la carte qui est choisie va être jouée directement. Il n'y a pas de principe de rapidité, qu'on ne me comprenne pas mal. Mais la carte que vous avez choisie, vous allez la poser. Donc ça, c'est assez original pour ça. Mais évidemment, le choix que vous allez faire va être fortement lié à votre voisin de droite et à votre voisin de gauche. Pourquoi ? Parce que, en fonction des âges, ces joueurs-là vont recevoir le paquet que vous lâchez. Et surtout, parce que, et ça fait partie de toute la mécanique du jeu, vous allez devoir vous baser et baser vos constructions sur vos propres ressources et votre propre capacité à construire, mais également sur celles de vos voisins. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas assez, par exemple, je dois construire un bâtiment qui me coûte 3 pierres et que je n'en ai qu'une, je peux aller la chercher chez mes voisins. Ou, autre chose, s'il y a un bâtiment très intéressant qui pourrait valoir plein de points et que je n'ai pas envie de le donner à mon voisin, je peux regarder s'il va pouvoir le construire. Et si, par exemple, s'il doit le construire, il devra m'acheter des ressources à moi, ça peut être intéressant de lui laisser. Parce que ça va me faire une rentrée d'argent qui va me permettre pour le futur soit de gagner des points de victoire, soit de construire autre chose. Donc vraiment, cette mécanique liée à ces deux voisins fait que le jeu est toujours très riche et que les choix sont, sans être des choix complexes, sont des choix riches en stratégie.
Et donc justement, les cartes tournent dans un sens et l'argent se passe entre les différents voisins, ce qui fait que s'il y a quelque chose qui m'intéresse chez un joueur qui est plus loin que mon voisin, je ne peux pas l'utiliser.
Oui, ça c'est clairement une chose pour laquelle les joueurs vont devoir être conscients au début, c'est qu'il faut évidemment réfléchir et se baser sur ce que ses voisins vont construire, mais il ne faut pas trop attendre d'eux. Mmh. Sinon, il peut y avoir des pénuries de ressources qui peut être très handicapant pour la suite. Mais ceci dit, la partie dure une demi-heure, ça ne pose pas de problème. Mais il faut bien faire attention dans son draft à choisir des cartes pour soi également. Si vous basez tout sur la stratégie sur ce que vos voisins vont vous aider à produire, vous n'avez en soi pas beaucoup de chance.
Alors le matériel, on en a parlé, il y a des cartes qui vont passer de main en main, mais on a aussi un petit plateau individuel devant soi.
Oui, alors point de vue matériel, on a de toute façon 7 plateaux de jeu qui correspondent aux 7 merveilles du monde. Sachant que ces plateaux sont recto-verso pour nous permettre, tout comme c'est le cas à Ghost Stories, qui est d'ailleurs aussi un jeu de Antoine Boza, donc ce qui vont nous permettre de jouer une civilisation selon deux axes différents pour renouveler les parties. Nous avons plus de 150 cartes qui vont correspondre aux différents âges. Nous avons des pièces, monseigneur, voilà, avec des vrais morceaux d'arbres dedans, qui vont donc symboliser l'argent. On a un carnet de score et c'est déjà... Et un arbre de technologie.
Ah, voilà. Venons-y.
Comme dans tous les jeux de civilisation, nous avons un arbre de technologie. Sur cet arbre de technologie, de gauche à droite, est indiquée l'évolution temporelle avec les je vais repasser en mode normal. Donc les trois âges auxquels on va jouer. Les cartes sont séparées en diverses couleurs. On peut avoir des cartes de commerce, hein, qui vont être les cartes jaunes, des cartes militaires, des cartes d'évolution de l'urbanisme, hein, du côté civil. On a enfin toutes les cartes technologiques, avec des bâtiments qui vont évoluer. Par exemple, une école va devenir une université, qui va devenir une académie, enfin... Tout ça qui va évoluer pour peut-être une partie plus sur un axe technologique. Et enfin, on aura des guildes tout à la fin qui vont récompenser les joueurs, mais non pas sur ce que eux ont fait, enfin pas toujours sur ce qu'eux ont fait, mais parfois sur ce que leurs voisins ont fait. Donc il peut être judicieux à certains moments de miser un peu sur ses voisins pour aller chercher des points de victoire chez eux à la fin.
Ça, à chaque fois, ce sont des cartes différentes. Une guilde, c'est une carte qu'on va voir passer un moment dans un...
Absolument, absolument. En fait, toutes les cartes sont des bâtiments. Et donc, tout se déroule et s'architecture autour de ces bâtiments. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va jouer, en fait, on n'est pas obligé de partir dans une direction. Enfin, on peut avoir des gens qui font une stratégie très commerce, en disant « Ouais, moi, je vais essayer de vendre un max de ressources, donc gagner un maximum d'or, qui sera converti en point de victoire à la fin. » D'autres vont dire « Moi, je suis militaire et je vais poutrer la tronche de mes voisins. » Ou encore, on peut avoir des stratégies où il y en a qui évoluent un peu en civil, un peu en militaire, des stratégies un peu plus arc-en-ciel, où on essaie de faire toutes les couleurs. Et il y a vraiment, le jeu est d'une richesse, peut-être pas infinie, mais pas loin, où il y a vraiment 50 façons différentes pour scorer et pour gagner.
Alors, on l'a dit, le jeu se passe en trois âges. Ça se représente comment, ces trois âges?
Donc, en fait, les trois âges sont liés à trois paquets de cartes. Les paquets sont évidemment spécifiques et dans la logique d'une civilisation qui évolue. C'est-à-dire que le premier âge contient beaucoup d'usines de production ou d'usines de manufacturation de matières premières. Et quelques bâtiments militaires, quelques bâtiments civils qui sont assez faibles, mais qui vont permettre aux joueurs par la suite d'avoir des constructions gratuites. C'est-à-dire, comme l'expliquait Cédric, eh bien, par exemple, le scriptorium va donner sur la librairie. Il n'est pas nécessaire d'avoir le scriptorium pour construire une librairie, mais si vous avez fait un effort plutôt que de prendre des bâtiments qui vont vous donner des ressources pour plus tard, si vous avez fait l'effort de construire le scriptorium, vous aurez la librairie gratuitement, sans payer de ressources. Donc voilà, sachant que le troisième âge, lui, ne contient plus du tout de bâtiments de production, il ne contiendra que des bâtiments à haute valeur de points de victoire. Les bâtiments civils seront à 6, par exemple, ou à 5, et les guildes qui peuvent aussi aller monter jusqu'à des 9 ou parfois des 10 points de victoire. Donc il y a vraiment une évolution. Ce qui est très excitant dans le jeu, c'est qu'on commence petit, et puis on s'en fout, voilà, ça devient de plus en plus fort, etc. Et puis, une fois qu'on a vraiment atteint l'apogée, la partie est finie, on compte les points et on a envie de rejouer directement. Parce qu'on se rend bien compte que les choix qu'on a faits, qui sont basés sur les voisins, sur les mains de cartes qu'on a eues au départ, etc., étaient ou n'étaient peut-être pas la bonne solution sur cette partie-là. Oui. Il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de façon de gagner automatique. Il faudra faire que chaque fois évaluer, sentir ce que ses voisins vont faire. Si on joue assez de voir les cartes qui ont été jouées, si on joue à moins de joueurs, voir ce que les cartes qui ont la possibilité de revenir, etc. Le jeu en lui-même est très simple, mais offre des possibilités stratégiques très importantes.
Okay. Quand est-ce que le jeu se termine finalement?
Eh bien, le jeu se termine lorsqu'on arrive à la fin du dernier paquet de cartes. C'est-à-dire qu'on va jouer 7 cartes à chaque âge. Et lorsqu'on a joué la 7e et dernière carte du dernier âge, du 3e âge donc, le jeu s'arrête et on va comparer chacun nos points de victoire. On va comparer nos forces militaires, et voir un petit peu où on va.
Okay. Je vois sur les plateaux individuels, il y a 3 emplacements différents. Ça a un but bien spécifique. Enfin, chaque plateau individuel a des emplacements sur lesquels il y a des actions spécifiques à faire. Ça, c'est propre à chaque plateau. Elles sont différentes à chaque fois.
Oui, en effet. Les plateaux, comme on l'a vu, représentent les civilisations architecturées autour de la merveille que peut construire chaque civilisation. Les 3 cases que tu vois, en fait, sont les phases, les étapes de construction de la merveille. Et donc, les joueurs ne sont pas obligés de construire leur merveille du monde pour gagner la partie. Néanmoins, ça rapporte pas mal de points de victoire. Mais à nouveau, comme je l'ai souligné, il y a des tonnes de stratégies différentes. Et on a déjà vu plusieurs fois des gens gagner sans avoir mis une seule énergie ou une seule carte dans leur merveille et se baser sur d'autres axes. Maintenant, chaque peuplade, effectivement, a des étapes de merveille différentes qui vont parfois orienter un peu la façon de jouer ou qui vont permettre certaines évolutions. Par exemple, une civilisation va gagner plus d'or, une autre va pouvoir récupérer une carte des fossés, une autre va être plus scientifique, enfin...
Comment s'est passée la rencontre avec Antoine Boza par rapport à ce jeu ?
Eh bien, ça s'est passé au monde du jeu, c'est-à-dire que lors de la soirée où on présentait le jeu à différents, enfin Ghost Stories et White Moon à différents interlocuteurs, à la fin de la soirée, Antoine nous a dit tiens, si vous voulez, j'ai d'autres protos, sachant qu'on était déjà en contact et que j'avais déjà entendu, il m'avait déjà un peu parlé de ça. Cédric était, il était tard, Cédric avait déjà été dormir, donc nous on a joué avec.
Merci, c'est comme ça. Merci.
Voilà, je tenais à le dire, il est allé dormir. Le salaud.
Il est là. Il est allé dormir.
Et donc moi j'ai joué et j'ai vraiment directement très fort accroché au jeu. Mm-hmm. Il y avait encore quelques petits soucis de mise en, enfin de PAO, enfin donc d'organisation des cartes, etc. qui nous est un petit peu à la fluidité de la partie, mais j'ai dit directement à Antoine, ça c'est vachement bien. Le lendemain j'en ai parlé avec Cédric. Qui, évidemment, kiffait à fond ce genre de mécanisme, etc.
Je kiffe, waouh.
Tu kiffes les mécanismes.
Tu rajeunis l'image d'une société, tout d'un coup.
Et lors d'une soirée à Essen, en fait, le premier soir, à mon avis, parce qu'on a attrapé Antoine avant que ça commence, parce qu'on y croyait, après réflexion, on y croyait beaucoup, on a attrapé Antoine, et on a joué, et on a signé directement.
Je crois qu'on l'a menotté à un radiateur jusqu'à ce qu'il signe, en fait.
C'est comme ça que vous faites d'habitude.
Oui.
Est-ce qu'on connaît déjà l'illustrateur ?
Ce n'est pas Pierrot !
Comment ça ?
Non, ce n'est pas Pierrot parce qu'il est un petit peu trop débordé en ce moment. Et puis, on ne travaille pas qu'avec Pierrot non plus. Donc, on a regardé un peu différents illustrateurs. On a été assez bluffé par le travail qu'a fait donc Miguel Coimbra sur Cyclades, entre autres. Donc, on a contacté Hicham de Matagon en disant, écoute, on a un projet qui nous plairait bien et on aimerait bien le faire avec Miguel. Et il nous a gentiment mis en relation. Et puis voilà, et donc à l'heure actuelle, nous avons les premiers roughs qui arrivent et on kiffe les roughs.
Donc Miguel Coimbra qui a fait les géants de l'île de Pâques aussi, et oui. Cyclades dans ce qui est le plus actuel.
Cyclades, tu veux dire. Ouais.
Bien, merci beaucoup pour ce jeu qui n'est pas habituel, on va dire, dans votre cheptel, on va dire. Mais on se réjouit. Merci beaucoup, Thomas.
De rien.
Et merci, Monseigneur.
À Biderzein.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.